Chapitre 17. Heure sombre. Laurent Mestru faisait partie de l'Union des garçons sans être un membre bien zélé. S'il avait voulu, il aurait pu faire admettre Rosanne parmi les invités à la partie de traîneau qu'on projetait, bien que la jeune fille fût, par sa position, un peu au-dessous de cet honneur. Mais Laurent avait peu d'entrain. Il se sentait tantôt déprimé, tantôt irritable, et il évitait les occasions de discuter. Les labours d'automne étant terminés, on commençait le bûcheronnage, les nettoyages de forêt. Chaque matin, Laurent partait avec les hommes, et chaque matin, le café au lait que Louise Duplan avait soigneusement préparé lui répugnait davantage, l'effort de la mise en train lui était plus dur. « Est-ce que je deviendrai une poule mouillée ?» se demandait-il. « Mon père va au travail en sifflant, moi j'y vais en geignant. Qu'est-ce que j'ai donc ?» Depuis une quinzaine de jours, 3 semaines peut-être, je suis mal dans ma peau. Quelque chose me gêne quelque part et je pourrais à peine dire si c'est dans le corps ou dans l'esprit. Ces idées noires qui me prennent le soir principalement, je n'y étais pas sujet autrefois. Je n'ai pas grand appétit, c'est vrai, et ce petit picotement à la gorge m'ennuie un peu. Quand a-t-il commencé ? Hier, avant-hier, j'aurais dû prendre un peu de citron en rentrant hier soir. Mon père se moquera de moi s'il me voit me soigner. » Mais, au contraire, Élie Mestru commençait précisément à s'inquiéter de l'abattement que son fils ne pouvait toujours cacher. « Tu es fatigué ? Reste à la maison ce matin. T'imagines-tu être si nécessaire ?» lui dit-il avec une brusquerie qui voulait être tonique quand il vit Laurent se détourner de la table où fumait le déjeuner et aller s'accoter à la muraille le plus près possible du fourneau rouillé où brûlotait une motte de tourbe. « L'air me fera du bien, répondit son fils. J'ai un peu mal à la tête et j'ai froid. » « Louise, vous lui chaufferez sa chambre, » dit Élie à la ménagère qui s'affairait dans la cuisine, un peu bruyante mais active. « Je n'y manquerai pas. À mon avis, monsieur Laurent, vous feriez mieux de rester à la maison, vous avez grise mine. Vous gorgeriez un gros rhume que ça ne m'étonnerait pas. Je vous ferai de la bourrache pour transpirer, je vous dorloterai. » Louise Duplan avait dit un mot de trop. Rien que l'idée d'être soignée par cette femme irrita Laurent, qui se leva et gagna la porte. La douleur sourde qui lui remplissait les tempes coulait vers la nuque, lui enveloppait la tête comme un bandeau serré, avec de gros nœuds ici et là. Et le frisson qui ressemblait à un mince ruisselet glacé, au lieu d'être transformé par la marche en une onde de circulation chaude et joyeuse, devenait un réseau mordant qui courait partout sur l'épiderme hérissé. À 10 heures, Laurent fut obligé de dire « Je rentre ». Son mal de tête, logé maintenant dans l'arcade sourcilière, lui obscurcissait presque la vue et lui semblait lourd comme 2 morceaux de plomb qu'on lui aurait mis derrière les yeux. « Tu as raison, va te mettre au lit, » dit son père. Il ne lui était guère possible de quitter les domestiques en ce moment. On abattait un sapin mal placé dont la chute devait être dirigée par des cordes vers un espace vide. La plus petite étourderie pouvait causer un grave accident. Le maître ne se fiait qu'à lui-même pour commander cette manœuvre. Oh, la misère de cette maison vide ! Balayée assurément et mieux tenue que du temps de Fanelli, mais froide, sordide et laide. Rien qu'à traverser la cuisine, Laurent fut pris du bizarre dégoût qui le serrait à la gorge et lui soulevait le cœur, et son malaise physique se transmuait en une sorte de haine pour les murs salis, pour la rampe de l'escalier que 25 ans d'incurie avaient enduite de leur crasse. Pour cette marche, l'avant-dernière, qui s'affaissait en son milieu et dont le rebord de fer se soulevait comme une trappe en arceau. Tout à coup, les idées de Laurent prenaient une vélocité extraordinaire. Il les sentait bondir comme des poids d'un bord à l'autre de sa tête endolorie. Et c'était du passé, du présent et de l'avenir qu'il s'agissait à la fois. « J'aurais dû prendre sur moi de faire réparer cette baraque », se disait-il, tâtonnant avec impatience pour trouver sa porte dans le couloir obscur. La fenêtre de derrière, qui ouvrait sur l'escalier, avait ses volets clos depuis des années, parce que la croisée mal jointe laissait filtrer des courants d'air. À présent, on ne saurait plus par où commencer, poursuivit-il en lui-même, butant sur le seuil. Le feu craquait et luisait dans le petit poêle. Laurent en eut une minute de satisfaction tellement intense et absurde que l'aspect du monde lui parut changé. Mais l'éclair fut court. La pulsation aiguë du mal de tête le lancinait à présent dans les vertèbres de la nuque et jusque dans le dos. Sans se dévêtir entièrement, il se blottit sous ses couvertures, dolant comme un petit enfant sans mère, à présent que nul ne le voyait et qu'il n'avait plus son attitude virile à maintenir. Il se disait « J'ai laissé la maison ouverte, n'importe qui peut entrer. Je devrais redescendre pour fermer et, à midi, je descendrai encore pour ouvrir à mon père qui passera sûrement avant d'aller au Guillaume Tell. » Louise Duplan, quand elle avait mis la maison en ordre, s'en allait. Elle ne revenait que le lendemain matin pour faire le déjeuner. Laurent tout sauta. Quelque chose l'étranglait un peu. Et il n'arrivait pas à se réchauffer. L'obsession d'avoir à descendre pour fermer la porte de la cuisine tourbillonnait dans son esprit comme une abeille. Cependant, les objets tranquilles et familiers de la chambre, l'ordre, la clarté nette de toute chose, le calmaient peu à peu. L'espace que, de son lit, il voyait se prolonger vers la fenêtre, lui paraissait une avenue bordée de petits édifices. La poupée bleue se dessinait de profil, en silhouette pâlote sur la lumière, et c'était une pauvre petite Rosanne, assise dans une pagode, on ne savait pourquoi, et qui tendait les bras vers un secours inaccessible. Cependant, il fallait descendre l'escalier, et surtout, éviter cette lame de fer narceau. Quand on a dans la gorge un brin de laine qui vous chatouille, comment s'en débarrasse-t-on? Ce n'est pas un brin de laine, d'ailleurs, c'est une petite valve qui monte et descend comme le flotteur dans le thermomètre. Bon, un pas dans l'escalier à présent. La porte s'ouvre. De nouveau, la vague de soulagement, de joie bondissante envahit Laurent, le fait même rire comme un bébé qui revoit sa mère. Au moins, la porte de la cuisine est fermée. Il n'y a plus à se tourmenter, même si la poupée bleue tombait, elle ne pourrait se sauver par là. « On dirait que tu as de la fièvre, » fit Élie lui mettant sa main râpeuse sur le front. « As-tu mal ailleurs qu'à la tête ?»« J'ai mal un peu partout, » répondit Laurent, qui tout sauta pour chasser le brin de laine. « Quelque chose me gratte dans la gorge. » Tout s'éclaircissait. L'avenue et ses petits édifices redevenaient une paroi boisée avec des photographies, des étagères, des livres vus en enfilade. « Tu n'as pas froid, au moins ?» demanda Élie qui n'entendait rien au malade. « Si, par moments, j'ai de la glace qui me coule entre les épaules. Je pourrais chauffer. Voyons, des flanelles. Avons-nous des flanelles ? Nous devions avoir aussi une bassinoire dans le temps. » « Je vais toujours mettre ton gilet de laine contre le poêle et, quand il sera chaud, je t'entortillerai dedans. Le mieux serait d'appeler Louise Duplan. Elle saurait des petits remèdes. » L'idée d'avoir recours au docteur ne les abordait encore ni l'un ni l'autre. Et c'est ainsi que, jusqu'au soir, l'insidieux germe de diphtérie put se développer suivant les lois de sa nature sans que rien entravât son envahissement. Élie fit des compresses, puis il sortit pour quérir Louise Duplan. Elle accourut avec un cornet de bourrache, elle chauffa une grande marmite d'eau, découvrit deux bouteilles de grès au fond d'un placard, les apporta brûlantes à Laurent, qui se fâcha et protesta d'une voix enrouée, tandis que Louise entassait sur lui trois couvertures et deux édredons. « Laissez, laissez, je sais la manière de faire sortir un froid. Buvez-moi cette bourrache. » « Et dans 2 heures, vous serez trempé comme un parapluie, » dit la bonne femme, tout en gavant de bois le petit poêle qui devenait rouge. Mais la réaction qu'elle attendait ne s'opéra pas. Laurent, la peau sèche et brûlante, avait des accès de toux rauque, entrecoupés de longues minutes de torpeur. Élie rentra dès qu'il le put, même avant la tombée du jour. Il faisait froid dehors. Du ciel gris tombaient de minces flocons de neige, les premiers qui flottaient, incertains, troublant l'air de leur buée mouvante. « Eh bien, comment va-t-il ? » demanda le père en mettant le pied dans la cuisine. « Il dort, » répondit Louise avec satisfaction. « Et il est de mauvaise humeur quand il se réveille, tout juste comme un homme doit être dans son cas. Par amour-propre, elle n'avoua pas l'insuccès de sa bourrache. Elle retourna chez elle pour vaquer au souper de sa maisonnée, promettant de revenir vers les 9 heures pour voir s'il y aurait encore quelques petites choses à faire. Le matin suivant, une nouvelle s'allumait et sautait comme une mèche de fulmi-coton, de seuil en seuil, de rue en rue, jusqu'à l'extrémité du village et jusqu'au château. La petite Duplan, surnommée Clochette, frappait vers 7h30 à la porte des Dames du Pommier.
« Il ne faut pas compter sur grand-maman aujourd'hui pour votre lessive, » proféra-t-elle hors d'haleine dès qu'elle aperçut Rosanne. « Elle est retenue chez les Mestru. Laurent Mestru est bien malade. On doit ouvrir les fenêtres et on l'a piqué avec une seringue. Peut-être qu'il mourra parce qu'il étouffe. Le docteur est là tout le temps. »
Rosanne, toute blanche, les yeux agrandis et fixes, fut pendant une minute sans pouvoir faire un mouvement. Subitement, sans même prendre un châle, elle s'élança sur la terrasse, descendit l'avenue et courut d'un trait jusqu'au village. Elle alla droit à la maison Mestru. Elle pénétra dans la cuisine. Louise Duplan s'y trouvait, la figure bouffie de larmes.
« N'entrez pas, n'entrez pas » cria-t-elle en étendant les mains. « Vous n'avez pas vu le placard qui est sur la porte ?»
Rosanne secoua vaguement la tête.
« Laurent est malade ?»
prononça-t-elle les mâchoires serrées.
« Malade ? Oh oui, presque trépassé ! Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit !»
Vers 10 heures, Élie Mestru avait commencé à s'inquiéter sérieusement. Réveillant un des domestiques, il lui avait ordonné de seller immédiatement un cheval, d'aller jusqu'à la commune voisine où demeurait le docteur de 2 villages et de le ramener coûte que coûte, en lui disant que le malade avait des peaux blanches dans la gorge, au cas où il y aurait des remèdes à rapporter. Et dans l'intervalle, le vieux paysan et la vieille journalière avaient assisté à une de ces crises d'étouffement qu'on oublie de sa vie quand on en a été une fois le témoin épouvanté. Assise au milieu du lit en désordre, les pieds sur le plancher, le buste à moitié renversé et les bras rigides tour à tour battant l'air ou arrachant la chemise, Laurent cherchait, avec un horrible effort de ses bronches obstruées, le souffle qui n'arrivait point. Puis il retombait en arrière, épuisé, ne luttant plus, et à chaque minute, son père, à moitié fou de douleur et d'impuissance, croyait que ce fut la dernière. Enfin, le docteur parut. Il fit immédiatement une injection de sérum, il donna une quantité d'ordre à Louise éperdue. Les 2 domestiques de la ferme restaient sur pied à tout hasard. Mais on n'avait rien de ce qu'il fallait. Le docteur demandait « Auriez-vous un rigolo ? Vous n'avez pas une petite pharmacie de maison ? Apportez-moi 2 ou 3 oreillers pour mieux soutenir notre malade. » « Voyons, ma bonne femme, vous savez bien où prendre des oreillers, n'est-ce pas ?» Chose incroyable, il n'y avait pas d'oreiller dans la maison. Élie dormait sur un coussin de crin. Où donc avaient passé les oreillers ? Louise, sur le seuil, expliquait verbeusement qu'elle n'avait pas non plus de thé pour enfourner les oreillers si l'on avait eu des oreillers. On l'envoya réveiller la cure, où bientôt des lumières passèrent de fenêtre en fenêtre. Les secours arrivèrent. M. Liumenet faisait dire qu'il serait là dans 5 minutes. Mais le docteur y mit son veto immédiatement. « J'en suis fâché, dit-il, mais mon devoir m'oblige à vous isoler strictement. Nous n'allons pas infecter ce village. Le pasteur est bien le dernier des visiteurs à qui je permettrai d'entrer. Un homme qui va dans toutes les familles, qui fait le catéchisme aux enfants. La bonne femme restera ici, mais il nous faudrait une autre garde plus intelligente. Je tâcherai de vous la procurer en téléphonant au poste de la Croix-Rouge. Je passe avec vous le reste de la nuit, cela va sans dire. » Jusqu'au matin, les 2 hommes luttèrent avec l'ange d'épouvante qui remplissait de ses ailes sombres cette étroite chambre. Ils échangeaient quelques mots brefs, un ordre, une question. « Vous n'aviez rien remarqué jusqu'à hier ?»« Si, mon fils était fatigué, on avait beaucoup labouré. Trop, je l'ai laissé s'éreinter. »« Oh, ce n'est pas ça, c'est une infection. Où l'a-t-il prise ? Ce serait utile à savoir. » Assis près du poêle, tandis que l'air glacial entrait à grandes bouffées par la fenêtre ouverte,
le père et le docteur parlaient à voix basse. Il n'a pas fait de voyage dernièrement, il n'a pas couché dans une maison malsaine, malpropre, il ne s'est pas plaint d'avoir rencontré de mauvaises odeurs, d'avoir eu des dégoûts. Élie Mestru, la figure dans ses deux mains, ne répondit pas tout de suite. Au bout d'une minute, il prononça d'une voix unie, toute grise et sans intonation, « Docteur, j'ai tué mon fils !»« Bon, fit le docteur, voilà le père qui délire à présent. » Mais Élie continuait à parler et sa confession entière y passa. « Je l'ai tué, je l'ai obligé à vivre dans une maison qui n'est bonne qu'à fricasser. L'évier puait tout l'été, c'est ça le partout, sauf ici, dans sa chambre qu'il tenait lui-même. J'ai été un misérable maniaque, je commençais à m'en apercevoir. » Tout allait changer, trop tard. Je lui ai empoisonné sa jeunesse. Et il était bon fils. Il me marquait du respect quand je n'en méritais point. Nous le tirerons peut-être d'affaire, dit le docteur. Sa constitution fait une bonne défense. Quand, au petit matin, des pas commencèrent à sonner sur les pavés de la rue, ce fut par la fenêtre qu'on envoya les nouvelles et les commissions. Plus tard, le docteur descendit pour prendre une tasse de café à la cuisine et il vit avec étonnement une jeune fille qui se tenait là, tête nue, haletante. Il se tourna vers Louise Duplan. « Je vous avais recommandé de ne laisser entrer personne. »« Ne me ravoyez pas, » dit Rosanne. « Sauf son père, Laurent n'a personne de plus proche que moi. »« Vous êtes trop jeune pour le soigner, » fit le docteur, devinant la prière qu'elle allait lui adresser. « Je serai sa femme dans 6 mois, » répondit-elle. « La bataille sera encore chaude aujourd'hui et moi je suis obligé de partir, » fit le docteur se parlant à lui-même. « Il nous faut une garde, certainement. Je vais consulter M. Mestru, » fit-il regardant Rosanne. Mais, à son grand étonnement, elle sortait sans ajouter un mot. 5 minutes de course à perdre haleine la ramenèrent au château. « Maman, » dit-elle en approchant sa bouche de l'oreille de sa mère qui allumait du feu à la cuisine, « il faudra que tu te passes de moi pendant quelques jours. Laurent est très malade, je vais le soigner. C'est mon droit. Dis-le à Madame Champieu. Je n'ai pas le temps de monter chez elle, elle voudrait me retenir. Je t'enverrai des nouvelles, mais ne viens pas en chercher. La maison est interdite. » « Va, ma fille, fais ton devoir, » prononça la frêle vieille femme qui avait été héroïque 2 ou 3 fois dans sa vie. Rosanne passa rapidement dans sa chambre et fit un paquet de quelques vêtements. Elle avait une sorte de sang-froid de surface, machinal, qui lui faisait accomplir des gestes raisonnables et coordonnés. Mais plus profond, c'était une douleur atroce, comme un couteau enfoncé. C'était aussi un bouillonnement passionné d'énergie, un élan de toutes les forces de son être vers un seul point où le miracle sauveur devait se faire. Calme en apparence et concentrée, Rosanne traversa la cuisine des Mestru, vide à présent, et monta l'escalier. Elle savait que la chambre de Laurent se trouvait au second étage. Sur le second palier, elle s'arrêta et, au même instant, une porte s'ouvrit en face d'elle. « Me voici, docteur, » fit Rosanne. « Veuillez me donner vos instructions. » Les deux hommes s'effacèrent pour la laisser entrer. Élie la regarda avec une joie et une vénération extraordinaires. « Vous le sauverez, » dit-il. Il ne pensait qu'à son fils. Mais dès que Laurent reconnut Rosanne, il poussa un cri. « Pas toi, pas toi, c'est contagieux, » fit-il d'une voix rauque et épuisée. « Je ne te demande pas permission, » répondit-elle avec une tendresse gaie, se penchant vers lui pour arranger la couverture.